avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, RFI consacre une partie de son antenne à la détresse des jeunes face à la pandémie. Et chez 7 milliards de voisins, eh bien, nous allons nous interroger sur les problèmes des étudiants pour étudier, pour réussir leur examen, car c'est bien pour cela qu'ils sont à l'université. En France, au Royaume-Uni, les jeunes étudient derrière leurs écrans, dans la solitude et les doutes, et pas seulement dans ces pays-là. Alors comment éviter le décrochage? Nous allons en parler avec nos invités. Marie Billon est notre correspondante à Londres. Elle fera le point sur la situation des étudiants britanniques, qui en plus payent très cher leurs études. Sandra Gaviria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans notre studio, vous êtes professeure à l'Université Le Havre Normandie, vous enseignez la sociologie, vous avez des étudiants de tous les niveaux, première année, deuxième année, master. Paul Maillot est également en liaison avec nous, président de la FAGE, premier syndicat étudiant en France. Bonjour Paul Maillot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On entendra également le président de l'Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse Bobigny, Christophe Fouquéré, qui sera en direct avec nous. Et quant à vous les voisins, parlez-nous de vos difficultés à étudier dans le contexte actuel, où que vous soyez dans le monde. Appelez-nous surtout dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Êtes-vous inquiet pour vos examens et une éventuelle année blanche pour certains? Sur nos réseaux sociaux, on a reçu beaucoup de témoignages. Ousmane est étudiant à l'université Charanta Diop à Dakar au Sénégal. Comment un étudiant qui ne parvient même pas à s'assurer d'une restauration quotidienne peut-il se payer une connexion Internet pour suivre ses cours? Évidemment, c'est le genre de témoignage qui nous recadre. Et puis écoutez aussi cet étudiant, également à Dakar, à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes.
Bonjour à tous, c'est Ousmane Camara, étudiant sénégalais depuis Dakar. Nous sommes dans une détresse totale parce qu'en amont, on n'était pas préparé pour ça. On avait l'habitude d'être dans les salles de classe, voilà, de partager nos heures de cours avec les professeurs. Mais avec cette décrochage-là, c'est un peu compliqué. Moi, la chance que j'ai très tôt fréquenté les étudiants informatiques. Par rapport aux autres étudiants au début, c'était compliqué parce qu'ils n'avaient pas en fait cette maîtrise beaucoup plus effective de la plateforme. Mais aussi, la qualité de la connexion aussi reste à désirer parfois. On n'arrive même pas à entendre ce que le professeur est en train de dire. Au niveau de la salle de discussion, là où on doit poser les questions aussi. Il y a tellement de questions que les étudiants posent et que le professeur n'arrive même pas à les répondre tous. Voilà. Au niveau de la maison aussi, les parents pensent que ce n'est pas sérieux d'être derrière une machine et de faire cours. Des fois, voilà, ils te donnent des tâches à faire. On n'arrive même pas à se concentrer. C'est vraiment compliqué, vraiment.
Claude est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il nous dit « c'est du blabla cette histoire de cours en ligne ici en Afrique. Nous en sommes encore à un point où l'accès à Internet est un luxe. Même quand on arrive à acheter un pass Internet, il faut prier pour qu'il ne pleuve pas ou qu'il ne vente pas assez fort. Nous avons à peine accès à l'électricité pour déjà réviser nos cours sur support physique. » C'est très précaire d'étudier en Afrique et rien n'est fait dans le sens de l'amélioration. Ce n'est pas ma réalité ici en Côte d'Ivoire, mais je pense à mes frères tchadiens ou congolais. Et puis écoutez aussi cet étudiant à Bukavu, dans l'est de la RDC, Henri.
Ici, nous sommes dans une situation de vie extrêmement difficile à gérer. La fermeture des écoles secondaires et des universités, alors que les églises, le marché, sont restés ouverts. Au marché, les gens sont vraiment superposés les uns les autres et la contamination est tout à fait trop rapide par rapport aux milieux éducatifs. Il est vrai qu'on devrait peut-être protéger la génération future et de la planète, mais cette fois-ci, on devrait peut-être nous laisser étudier et en finir, parce qu'on a tout à fait, beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Merci.
Shadrach, également étudiant au Congo-Kinshasa, donc nous dit « Aucune réponse convaincante de la part de nos autorités. Ici, l'éducation est dans les oubliettes. Pourquoi fermer les écoles si même les élèves et étudiants qui restent à la maison fréquentent ces bars et restaurants ? Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. » Paul Maillot, vous êtes syndicaliste étudiant en France où tous les commerces sont ouverts, sauf les centres commerciaux, les campus sont quasi fermés. Est-ce que vous aussi, même si les conditions sont très différentes, est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment d'une génération sacrifiée, Paul ?
Alors, c'est un sentiment qui peut être largement partagé. Et là, effectivement, on a des mesures qui sont assez paradoxales quand on a une réouverture du secondaire et pas du supérieur, qu'on fait plus confiance à des enfants, effectivement, pour manger à la pause méridienne qu'à de jeunes adultes. C'est des choses qui peuvent être assez paradoxales, effectivement.
Ouais. D'ailleurs, les lycéens qui vont en cours ne cachent pas eux-mêmes leur désarroi. Ils sont 69% à estimer que la pandémie perturbe leur orientation scolaire. On est vraiment dans la concurrence des difficultés. Nous donnons la parole à une auditrice qui est à Kinshasa. Elda est en ligne avec nous. Bonjour Elda.
Bonjour.
Vous avez entendu les témoignages de vos compatriotes en RDC. Vous avez 24 ans, vous êtes en licence 2 de droit à l'UNIKIN, hein, l'université de Kinshasa. Vous craignez carrément une année blanche ?
Oui, nous craignons une année blanche. Mais déjà, nous sommes rassurés, il n'y a pas d'année blanche, bien sûr.
Pourquoi vous dites ça ?
Parce que je suivis le ministre de Santé qui a dit qu'il n'y aura pas d'année blanche. Mm-hmm. Ça, c'est confirmé, il n'y aura pas d'année blanche.
Oui, alors on se demande comment les étudiants vont tout de même passer dans l'année suivante. Qu'est-ce que vous faites toute la journée, Elda ?
Vraiment, on n'a vraiment pas grand-chose à faire. Nous sommes juste là en train de revoir nos notes, quelques notes et nos supports pour essayer d'être quand même à la page avec nos travaux. Parce que nous sommes en année terminale et c'est un peu compliqué déjà parce qu'on n'a pas accès à la bibliothèque. Donc, on n'est vraiment plus en contact avec nos encadreurs. Mais bon, on fait quand même de nos mieux.
Merci Elda d'avoir été en ligne avec nous. Je vous propose maintenant d'écouter un témoignage en France. En France, certes, il y a des cours en ligne, plutôt bien organisés. Il y a quelques mois, on a consacré une émission d'ailleurs à la révolution de l'enseignement à distance comme bilan du premier confinement. Tout le monde était assez positif. Mais depuis, au fil des mois, le système s'est grippé, les jeunes se sont enfoncés dans la solitude. Écoutez le témoignage de cette étudiante de 19 ans à Paris. Nour est en deuxième année de licence économie et gestion à l'université Paris 2, Panthéon, Assas. Et depuis mars 2020, elle suit ses cours à distance dans sa chambre, derrière son écran d'ordinateur. Elle raconte à Raphaël Constant son inexorable décrochage.
On a cours à distance depuis le premier confinement, du coup. Là, à la rentrée, en début octobre, on a essayé de revenir en présentiel, ce qui a duré 2 semaines, même pas. Et pour moi, ça se passe mal. Donc j'ai commencé un peu à décrocher, etc. Et là, avec le deuxième confinement, je m'endors devant mes cours, je les suis même pas, enfin, c'est terrible. Tout ce que j'ai fait là ces 6 derniers mois, je n'ai rien retenu, enfin, je n'ai rien fait, je les ai bossés un peu pour mes partiels, mais sans plus. Et là, je peux rien vous dire de ce que j'ai fait, par exemple, en statistique ou en monnaie finance, quoi, je connais rien. J'ouvre mes cours Zoom et je m'endors devant, c'est... Je fais acte de présence pour pas être défaillante et je sais même pas pourquoi, parce que je vais sûrement redoubler du coup. C'est pas trop de la faute des professeurs, mais enfin, on n'est pas incité à rester quoi. Le prof corrige, point, et nous, si on veut prendre la parole, on peut. Si on veut pas prendre la parole, bah, il se passe rien. Il y a des cours où ouais, j'ai jamais entendu quelqu'un participer. Ça donne pas envie. Mes profs, je les ai jamais vus de ma vie. Par exemple, mes profs d'amphi, je les ai jamais vus. On en est cherché de travaux dirigés qui sont là pour mener les séances. On arrive en TD, on a eu des exercices pour s'entraîner par rapport au cours. Et notre chargé de TD est censé les corriger avec nous. Et là, bah, il débitait ce qu'il avait à dire. Il terminait sa séance, il coupait sa caméra et voilà. Et dans mes cours, on doit être une trentaine. Il doit y en avoir 3 qui ont leur caméra allumée. J'avais désactivé tout ça, donc je disais à mon prof que j'avais des problèmes de micro ou de caméra quand il me demandait de les mettre. Et c'est comme ça, je pense, dans toutes les facs. Hein. C'est vraiment, bah, on n'est pas obligé. Sur mon groupe de promo, genre avant les partiels, etc., je voyais la panique totale de tout le monde, personne n'avait ses TD. Tout le monde demandait ouais, qui a le TD5, de ça. Donc clairement, c'est la panique pour tout le monde là.
Et vous, comment est-ce que vous travaillez chez vous ? Comment vous vous êtes en tout cas organisé au début, au niveau des horaires, du planning, des devoirs, etc.
Alors au début, je me suis dit, je vais me mettre vraiment sérieusement à bosser pour faire une bonne L2. Donc je me réveillais le matin, je prenais ma douche, je me mettais devant mon ordi, sur ma table. Je prenais des feuilles à côté de moi, comme ça je pouvais faire des fiches rapidement. Enfin, je faisais mes exos, etc. En ouais, 2 semaines, même pas, c'est parti. C'est quand même terrible.
Et comment vous expliquez qu'à travers un ordinateur, vous n'arriviez pas à vous concentrer, à suivre les cours, alors que c'est une matière qui vous passionne ?
Déjà, j'ai des problèmes de trouble de l'attention. Donc j'ai du mal à me concentrer de base. Mais en présentiel, il y a le professeur qui est là, qui nous regarde. On est dans une classe de 30, par exemple, en TD, ou alors en amphi, il ne faut pas faire de bruit parce que tout le monde travaille à côté.
Et est-ce que vos parents se rendent compte que vous êtes en décrochage scolaire et que vous avez arrêté de suivre les cours ?
Alors moi, j'ai une relation très compliquée avec mes parents. Je leur dis rien, ils me disent rien. Donc moi, j'ai vraiment passé mes confinements dans ma chambre. Je sortais juste pour aller manger ou dans la toilette ou à la salle de bain. Ils pensent que je travaille toute la journée dans ma chambre, etc. Ou alors, quand je travaille chez des amis, etc., ils pensent vraiment que je travaille, alors que pas forcément. Et du coup, non, ils sont au courant de rien. Ils vont l'apprendre, je pense, en fin d'année, quand j'aurai mes résultats de l'année. C'est tout. Mais du coup, bah ouais, j'ai pas envie de leur dire ça. Ils sont très durs aussi, donc ils sont très stricts. Donc si je leur dis, je meurs, quoi.
C'est... Mais parce que vous avez peur qu'ils comprennent pas, que ce soit difficile pour les étudiants à distance cette année ?
Ah, mais mes parents ne vont pas comprendre. Pour eux, à 20 ans ou à 19 ans, etc., moi j'avais 19 ans, à 19 ans, c'est impossible d'avoir des problèmes. Pour eux, c'est inconcevable qu'un jeune de 19 ans qui n'a rien vécu de sa vie ait des problèmes. Donc clairement, si je leur dis, oui, je vais mal parce que voilà, l'isolement, tout ça, ils vont me dire, non, mais ça, c'est des broutilles, genre, c'est pas des vrais problèmes. Donc si je leur dis, oui, je suis en décrochage, etc., ils vont commencer à s'énerver, etc., en mode, oui, on te paye des études, enfin, on te donne de l'argent pour vivre, etc., et tu nous le rends comme ça, quoi. Moi, j'ai pas envie de passer par là, ça les regarde pas, et voilà, c'est tout.
Et est-ce que vous avez demandé de l'aide à vos professeurs ou à l'université ?
J'ai plus l'impression que c'est mon problème à moi, que ça n'a rien à voir avec l'université en elle-même. Tout le monde est en train de galérer en ce moment. Je vois pas pourquoi moi, j'ai sollicité l'université plus que les autres, quoi. Donc je me voyais mal envoyer un mail à un de mes chargés TD ou un de mes profs d'amphi pour dire oui, ça va pas, c'est compliqué de leur parler, quoi.
Et d'après vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous faire raccrocher ?
À part du présentiel, je pense pas. Parce que là, il n'y a plus de motivation, vraiment, le Covid nous tue. Mais nous tue mentalement, c'est horrible. Pour trouver quelque chose qui me motive comme ça, là, ça va être très compliqué. Il faudrait un retour en présentiel.
Le Covid nous tue. Les voisins, parlez-nous de vos difficultés d'étudier dans le contexte actuel. Je vous rappelle notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41. Sandra Gaviria, vous êtes enseignante à l'Université de Normandie, Le Havre. Vous reconnaissez une des réalités que vous vivez en tant qu'enseignante dans le témoignage de cette étudiante ?
Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a une partie de son témoignage qui correspond à une grande partie des étudiants qui mettent en avant la difficulté de trouver un rythme. Elle habite chez ses parents, mais elle a quand même une vie à part. Donc on pourrait presque dire que c'est comme si elle habitait un peu toute seule parce qu'on ne sait même pas dans le témoignage si elle mange avec ses parents. Et donc pour les étudiants, ils trouvent une difficulté à se lever, à s'habiller, à rester concentré devant cet écran parce qu'ils cumulent des cours. Donc, une partie des témoignages correspond à ce qu'ils vivent les étudiants. Pour une autre partie, le fait de ne pas avoir de lien avec ses parents et pas avoir de communication, ça renforce son sentiment de solitude et d'isolement. Et c'est ces étudiants qui sont en train de souffrir le plus, je pense.
Revenons aux difficultés pour étudier. 3 caméras sur 30 seulement qui sont allumées. Vous, quand vous faites cours à une trentaine d'étudiants, vous voyez combien de têtes d'étudiants sur votre écran ?
Alors, ça dépend des cours. Les étudiants, ils ne veulent pas mettre leur caméra quand c'est des cours magistraux. Quand c'est en TD, on a des possibilités par Zoom ou par d'autres de les mettre en petits groupes. Et là, quand on va dans les petits groupes, moi, je les incite, puisque je crée des salles, à mettre leur caméra, mais ils ont du mal. On n'a pas le droit de les obliger. Et c'est vrai
Pourquoi ils ont du mal ? C'est pas une raison technique.
Et c'est pas une raison technique, certains, parce que comme je vous dis, ils n'ont pas eu la force de volonté de se laver, de s'habiller, de ranger leur chambre, qu'ils ont dans des petits espaces. Des fois, il y a d'autres personnes dans la maison selon où ils habitent. Donc, c'est pas évident pour eux. Et puis, c'est toute la journée. Nous, on fait cours 2-3 heures dans la journée. Eux, c'est toute la journée.
Ils coupent leur micro également ?
Oui, mais ça, des fois, on leur avait demandé au départ, et puis parce que ça fait des problèmes quand on parle et qu'ils coupent leur micro. Après, moi, mon expérience, c'est que quand on arrive à les mobiliser en petits groupes, c'est plus difficile quand il y a 100 étudiants connectés, effectivement, de les faire participer.
Est-ce que vos étudiants vous parlent de ce qu'ils vivent, Sandra Gaviria ?
Oui, j'ai beaucoup parlé avec eux de leur situation. Donc, il y a des profils différents. Il y a des étudiants, par exemple, les étudiants étrangers, ce qui est difficile pour eux, c'est le fait que, par exemple, dans leur pays, les universités étaient fermées. Donc là, c'est leur première expérience d'enseignement à distance pour ceux qui sont arrivés cette année. Après, vous avez les étudiants qui sont tout seuls dans leur logement, qui sont restés tout seuls toute la journée. Et donc, il n'y a pas une vie de famille pour les entourer. Et il y a ceux qui sont en famille, mais que finalement, dans leur modèle d'autonomie au moment de la jeunesse, c'est se séparer de la famille. Donc être en famille, ce n'est pas ce qu'ils attendaient de ce moment de la vie.
Vous avez des étudiants qui ont décroché, qui ont de mauvaises notes aux examens, qui, de toute évidence, n'auront pas leur année universitaire.
Oui, et puis j'ai surtout des étudiants, certains que je les connais depuis quelques années, et ceux-là, ceux qui avaient des fragilités. Et votre témoignage le dit, elle dit, j'avais déjà des difficultés de concentration. Ce que j'observe, c'est que ceux qui avaient des fragilités diverses, et voilà, cette situation les fait plonger complètement. Il y en a qui ont disparu complètement de la circulation, et il y en a qui répondent des fois à un mail comme ça. Mais ce qui est commun dans tous ces étudiants, je pense que c'est important de le dire, c'est qu'ils sont satisfaits du travail des universités. En tout cas de notre université, mais je pense que c'est ce qu'on lit dans la presse, c'est que le travail des universités à tous les niveaux a été quand même très important.
Paul Maillot, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle du décrochage des étudiants? On sait que le taux d'échec était déjà très élevé en licence en France, 40% à peu près d'échecs avant la pandémie. Qu'est-ce qui se profile là, Paul Maillot?
Bah, oui, écoutez, le témoignage était... très, très dur, mais très juste, très vrai. C'était vraiment une réalité qui nous est remontée, qu'on vit en tant que jeunes, ces situations de décrochage. Au début, ça concernait des publics davantage fragilisés. Effectivement, les néo-bacheliers, les personnes qui étaient en situation de fracture numérique. Désormais, c'est tous les étudiants, toutes les étudiantes qui sont dans des situations très particulières, très dures, parce que ça va faire un an, dans quelques semaines, que eh bien, effectivement, on doit, en tant qu'étudiant, passer nos journées derrière nos écrans à suivre des cours. Et comme ça a été également très bien relaté, un des seuls leviers, une des seules choses qu'on peut faire pour redonner du sens à tout ça, eh bien, c'est de retrouver du lien social, c'est de retrouver du présentiel. Donc, on attend vraiment là...
Est-ce que vous avez des chiffres, Paul Maillot, à l'heure actuelle, sur le décrochage des étudiants?
Alors, sur le deuxième confinement, on n'a pas encore recalculé les taux de décrochage, mais sur le premier, on avait eu, lors de notre enquête qu'on avait commandée auprès de l'Institut de sondage Ipsos, 84% des jeunes qui avaient estimé être en situation de décrochage, bon, de manière plus ou moins forte, plus ou moins prévalente, mais 84% des jeunes.
Est-ce que, Sandra Gaviria, vous avez déjà eu l'occasion de noter vos étudiants, que ce soit pour des devoirs de contrôle continu ou pour des examens? Et qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que le niveau a baissé? Est-ce que vous êtes... Certains enseignants qui sont passés par ce studio ici nous ont dit en off, hors micro, on remonte les notes systématiquement.
Alors, je ne dirais pas qu'on remonte les notes, on a un peu de souplesse. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des étudiants qui vont faire carrément des copier-coller pratiquement des cours, parce que comme c'est des évaluations à distance, donc on essaye de mettre des questions, on discute avec les collègues pour essayer de mettre des questions, des réflexions, où on met en avant la réflexion, mais sachant aussi qu'au moment des cours, il y a moins d'échanges avec eux. Donc les moments de réflexion,
Est-ce que vous êtes tenté de remonter les notes pour éviter justement l'effondrement de certains étudiants? Vous avez parlé de souplesse. Ça veut dire quoi? C'est oui ou c'est non?
Non, moi, je ne peux pas dire que là, je remontais les notes de mes étudiants.
Paul Maillot, est-ce que à l'heure actuelle, vous pouvez nous dire quelle est la situation? On a des étudiants, Emmanuel Macron avait annoncé une journée par semaine en cours. Les étudiants de première année sont censés aller en cours en petits groupes. Où est-ce qu'on en est exactement du peu de présence à l'université?
Moi, ça, c'est encore un peu timide. Hein. Ça va être très hétérogène, un petit peu à l'instar des mesures qui avaient été annoncées pour début janvier, où on pouvait avoir un retour en présentiel à 10 personnes maximum par TD. C'est quelque chose qui avait eu un petit peu de mal à se mettre en place et qui, eh bien, un petit peu comme ça, là, pour le coup, le retour des 20% tend à se mettre en place. Mais effectivement, comme on n'avait pas non plus la possibilité de se restaurer le midi, et que c'est depuis que ce vendredi-là qu'on peut, par exemple, donc dans des espaces de restauration au niveau des Crous, effectivement, il faut retourner en cours.
Avec des repas à 1 euro dans les restaurants universitaires.
C'est ça, avec des repas à 1 euro, tout à fait. Et en fait, on retourne progressivement en cours. Mais encore une fois, c'est assez hétérogène. Et après, il y a effectivement la post-pédagogique, les vacances scolaires qui arrivent et qui permettront du coup de réorganiser tout ça de sorte à ce qu'on puisse retourner progressivement en fonction de l'évolution épidémique de plus en plus en présentiel.
Vous, à l'heure actuelle, vous demandez quoi en ce qui concerne l'enseignement en présentiel dans les universités en tant que syndicat étudiant?
En tant que syndicat étudiant, effectivement, on demande à ce qu'on puisse retourner en cours, Donc on sait pertinemment qu'on ne peut pas retrouver un 100% présentiel du fait de l'évolution épidémique, mais qu'on puisse au moins eh bien, suivre des cours en présentiel, avoir des mesures qui soient annoncées et réellement mises en place.
Ouais. Le conseil scientifique, d'ailleurs, s'était plutôt prononcé en votre faveur pour plus de présentiel à l'université, compte tenu des difficultés urgentes psychiques des étudiants.
Effectivement, il y a bien entendu le fait de prendre en compte cette question de la santé mentale qui a été. On en voit de plus en plus de témoignages d'enquêtes qui se dégradent quotidiennement et c'est un facteur que le conseil scientifique a pris en compte pour effectivement avoir un retour qui était pourtant parfois pouvant être considéré au sens de l'évolution de l'épidémie.
23% des jeunes déclarent avoir eu des pensées suicidaires. Alors, il y a maintenant des aides pour accéder à des psychologues. Psychiquement, comment vous les sentez, vos étudiants, Sandra Gaviria?
Alors, les étudiants, moi, ce que je vois, c'est que c'est très dur pour eux parce que c'est un sentiment de solitude. Et moi, je pense que ça vient... ce sentiment de solitude qu'on voit dans les enquêtes de l'EVE existait déjà.
Observatoire de la vie étudiante.
Voilà. En 2016, il y avait 30%. Là, ils sont à 50%. Donc, ce sentiment, quand on voit les enquêtes sur d'autres pays qui ont été faites, il y a ce sentiment de solitude. En France, je pense que c'est accentué chez la jeunesse, au moment de la jeunesse, parce qu'à cause du modèle du logement étudiant, où on habite seul dans son logement qui n'arrive pas dans d'autres pays.
En comparaison avec l'Espagne, par exemple, que vous connaissez particulièrement bien, Sandra Gaviria?
Oui, en comparaison en Espagne, par exemple, le système de colocation, et là, on le voit avec certains jeunes avec qui j'ai discuté qui sont en colocation, le fait de voilà, il y a moins de cours, mais ils sont à plusieurs. Alors, le problème je pense qu'il faut repenser le modèle de logement étudiant en partie, parce qu'en temps de pandémie, et ça ne marche plus.
Paul Maillot, sur le modèle de logement étudiant, vous dites plutôt qu'il n'y a pas assez de toute façon de logement étudiant en France, hein. Pandémie ou
oui,
pas.
Oui, effectivement, quand on se retrouve avec 175 000 logements CROUS, donc à tarification sociale pour 2,7 millions d'étudiants, c'est effectivement qu'on peut observer certaines lacunes en termes de nombre de logements et effectivement sur la forme également. C'est quelque chose qui doit être davantage développé, hein. Les colocations, les espaces collaboratifs de travail, les lieux pour effectivement pouvoir s'exprimer en termes de culture, en termes d'expression au niveau de projets de transition écologique. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire encore
sur
au niveau du logement.
Sur le psychisme des étudiants, il faut aussi bien repréciser à nos auditeurs qui nous écoutent à l'autre bout de la planète que Sandra Gaviria, quand les cours s'arrêtent à la fin de la journée, il est 18h et c'est le couvre-feu. Et donc les jeunes n'ont pas le droit de sortir. Donc c'est vraiment la double peine. Vous avez envisagé de décaler vos cours plutôt de les remettre de 18h à 20h, précisément à l'heure où ils sont obligés de rester chez eux?
Oui, en tout cas, au sein de mon UFR, on a fait un travail de... l'autre jour, j'ai fait avec un travail de réflexion, on a regardé les emplois du temps et on a vu que quand même, ils avaient des moments dans la journée où ils pouvaient sortir. Donc, parce qu'à un moment, on s'est posé la question, voilà, en petit groupe, et on a vu que c'était adapté, qu'il y avait des moments où ils pouvaient sortir.
Alors, il faut qu'on parle, bien sûr, de la précarité économique. C'est un sujet qui vous tient à cœur en tant que premier syndicat étudiant, Paul Maillot. Voici le témoignage de Brahim, qui a 23 ans. Il est étudiant malien depuis 3 ans en France. Cette année, donc, il est en Master 1 en sciences du langage à l'Université de Cergy, en région parisienne. Raphaël Constant l'a rencontré chez lui.
Les études en France au Master se passent plutôt bien, sauf que je n'ai pas de bourse. Et moi, personnellement, je travaillais dans l'événementiel, mais sauf que mon contrat il s'est arrêté depuis mars 2020 parce qu'il n'y a plus de festivals, il n'y a plus... du rassemblement. J'ai passé plusieurs mois sans source de revenus et c'était assez dur. Mais l'université met en place ce qu'on appelle une aide ponctuelle qui s'élève à 500 euros. Heureusement, j'ai bénéficié de cette aide, mais sauf que c'est une aide disponible qu'une seule fois dans l'année.
C'est une aide d'urgence qui est donnée par le CROUS, le Centre de Services Publics de la Vie Étudiante.
Exactement, c'est une aide d'urgence. Pour bénéficier, justement, il faudra justifier qu'on est sans source de revenus. C'est la commission qui décide du montant à octroyer aux étudiants. Mais le montant plafond, encore une fois, c'est 500 euros. Avant la crise sanitaire, je gagnais 650 euros par mois, ce qui était un montant assez suffisant pour moi. Je parvenais à payer correctement mon loyer. Pour la restauration, c'était bon. Donc, même en fin de mois, je me retrouvais avec un peu d'économie. Mais sauf qu'après l'arrêt de ce contrat, je me suis retrouvé de 650 euros à en moyenne 400 euros, ce qui n'est pas sans conséquence sur mes dépenses. Depuis septembre 2020, je travaille en intérim et donc ça dépend de chaque mois. Est-ce que j'ai assez de missions dans un mois? Est-ce que je fais plus d'heures? Je vis toujours dans cette incertitude. Je ne sais pas à la fin du mois combien je vais gagner, quand bien même que j'ai des dépenses à faire.
Et comment vous allez aujourd'hui?
Ça reste assez compliqué. Je vais un peu mieux par rapport au début de la crise parce que finalement, il y a la résilience qui est là. D'autant plus que ça fait presque un an que nous vivons dans la même situation et on arrive finalement à nous adapter. Mentalement, je tiens le coup parce que je me dis que je ne suis pas seul. Nous arrivons à discuter entre nous et ça fait souvent remonter le moral.
Brahim, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une certaine pression à être loin de votre famille et à réussir vos études malgré les conditions difficiles?
Bien sûr, j'ai une pression, je dirais même énorme, parce qu'il ne faut pas oublier que la famille a contribué à mon arrivée ici en France. Et donc, en quelque sorte, je leur dois cette réussite. Je dois tout faire, justement, pour décrocher mon diplôme. Je dirais, si je dois rentrer au pays, c'est peut-être en tant que diplômé, mais pas dans cette situation. Je préfère me débrouiller, comme je l'ai fait depuis maintenant près d'un an, finir mes études et ensuite, on verra. Je suis positif, j'ai l'espoir, je sais que je vais m'en sortir.
Voilà le témoignage de Brahim. Il a du mal en plus à bénéficier du restaurant universitaire à 1 euro, la mesure qui est en place là récemment, parce qu'il habite loin de son campus et donc il ne va pas aller perdre énormément de temps pour aller manger pour 1 euro et revenir travailler ses cours. Donc on voit bien toute la difficulté aussi d'associer la précarité économique, la réussite scolaire. Paul Maillot, pour le syndicat étudiant LAFAGE, c'est le sujet sur lequel vous mobilisez?
Oui, effectivement, c'est un des sujets qui nous préoccupe le plus depuis le début de la crise sanitaire et même déjà au-delà. Hein. Ça fait maintenant 10 ans qu'on a notre réseau d'épicerie sociale et solidaire et depuis mars, donc jusqu'à septembre de l'année dernière, plus de bénéficiaires on a eu dans ces épiceries sociales et solidaires d'étudiants que depuis le début de leur création, il y a 10 ans. Donc c'est vraiment un constat qui est flagrant. C'est pas normal aujourd'hui que des associations étudiantes se doivent d'organiser des distributions alimentaires. C'est plus de 100 000 paniers repas qui ont été distribués. On n'est pas un réseau qui est isolé, il y a d'autres réseaux de distribution alimentaire. Et aujourd'hui, en France, on parle de précarité là, alimentaire, mais ça touche énormément de jeunes. En plus, il y aura d'autres formes de précarité qui vont se rajouter à ça. Ça va être également au niveau de la précarité menstruelle, par exemple, au niveau du logement, des difficultés au niveau de la précarité énergétique. C'est vraiment un tout et qui concerne des dizaines, des centaines de milliers de jeunes.
Paul Maillot, vous réclamiez l'élargissement du RSA, le revenu de solidarité active, au moins de 25 ans. Ça n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement avec la garantie jeune.
Effectivement, sur du court terme, la question de l'extension du RSA doit être d'avis parce que situation urgente, mesure urgente. Et la question de la garantie jeune est une solution qui, effectivement, est soutenable sur du long terme, puisqu'on aura à la fois un accompagnement qui soit humain,
dans la recherche
mais également
d'emploi.
Financier. Dans la recherche d'emploi ou de formation, mais qui aujourd'hui, avec les derniers rapports qui sont sortis, et l'évolution que va prendre la garantie jeune est a priori insuffisante, parce que ne va pas concerner tous les jeunes.
La garantie jeune est conditionnée, bien sûr, à la recherche d'emploi.
Exactement.
Vous restez bien sûr avec nous, Paul Maillot, Sandra Gaviria, enseignante à l'Université Le Havre Normandie aussi. Vous êtes toujours avec nous en studio. Et bien sûr, les voisins et les voisines, vous pouvez nous appeler pour réagir. Parlez-nous de vos difficultés d'étudier dans le contexte actuel. 33 7 64 45 51 41. On va partir pour le Royaume-Uni. Les universités n'ont pas rouvert en janvier. Elles sont restées fermées à la plupart des étudiants donc à cause du troisième confinement imposé fin décembre avec l'apparition de la nouvelle souche anglaise de virus, le fameux variant anglais, plus contagieuse que l'original. Nous sommes en ligne avec notre correspondante à Londres. Bonjour Marie Birion.
Bonjour Emmanuel.
Marie Birion, alors qu'il est, les étudiants ne savent toujours pas quand ils retrouveront les amphithéâtres au Royaume-Uni.
Oui, effectivement. En Angleterre, en tout cas, c'est le 22 février que le gouvernement pourrait annoncer l'allègement des restrictions, mais ce sont les écoles qui devraient avoir la priorité début mars, parce qu'on sait qu'en début d'année universitaire, il y a eu de très nombreux et importants clusters dans les campus, donc il n'est vraiment pas certain que Londres prenne le risque de faire revenir les jeunes sur leur lieu d'études. Et en Écosse, par exemple, l'université d'Édimbourg, elle, a déjà fait savoir que les cours en présentiel ne reprendraient pas cette année.
On sait que les universités britanniques coûtent très cher, l'équivalent d'environ au moins 10 000 euros l'année, ça c'est vraiment le tarif minimum. Les facultés, est-ce qu'elles gèrent plus facilement ces challenges avec les fonds qu'elles récoltent des frais d'inscription? Elles ont plus d'argent que les universités françaises?
Écoutez, pas selon les étudiants en tout cas. Moi j'ai parlé à une jeune fille en deuxième année en langue vivante et elle a vraiment l'impression de se faire arnaquer, c'est ce qu'elle m'a dit. Même si elle sait que certains profs font de leur mieux, l'éducation ne peut pas être d'aussi bonne qualité qu'en temps normal, dit-elle. Et puis ces gros revenus des facs permettent à l'État de ne pas beaucoup aider les universités pendant cette crise. Par exemple, le gouvernement a mis en place un programme pour distribuer des ordinateurs portables aux établissements du primaire et du secondaire, mais pas pour les universités. Alors la plupart des établissements supérieurs propose des prêts d'ordinateurs, mais on n'a pas vu de campagne massive pour en obtenir ou en distribuer plus.
Il y a aussi des pétitions pour que certains jeunes soient dédommagés ou remboursés de leurs frais d'inscription au Royaume-Uni.
Oui, et l'une de ces pétitions doit être étudiée par le Parlement parce qu'elle a reçu plus de 270 000 signatures. Mais pour l'instant, ça ne donne rien de concret. Ça bouge un peu plus du côté des logements étudiants. Certaines universités et certaines organisations se sont engagées à rembourser une partie du loyer, mais parfois il ne s'agit que de 20% par exemple du coût annuel ou juste pour la période de confinement. Il y a donc des étudiants qui ont été obligés de revenir près de leur campus désert juste parce qu'ils ont un petit boulot dans les parages et qu'ils ne peuvent pas se permettre de démissionner à cause des coûts fixes qu'ils doivent toujours honorer. Les premières années qui sont logées sur le campus toujours ont perdu la camaraderie qui est propre aux cités universitaires. Les étudiants plus âgés, eux, sont souvent logés dans des appartements dans la ville ou dans les alentours et ces jeunes se retrouvent donc isolés, loin de leur famille et de leurs amis.
Et alors justement, psychologiquement, Marie Billon, comment s'en sortent les étudiants britanniques ?
Écoutez, ils ont du mal. Hein. Beaucoup, vraiment, l'avouent. Ils étaient d'abord assez motivés pour suivre tous les cours. Alors, j'ai parlé à un jeune homme, par exemple, qui, au début, se douchait, s'habillait pour suivre les cours dans de bonnes conditions, devant son ordinateur, dans sa chambre. Et puis, au bout d'un moment, il a arrêté. Il met maintenant le réveil quelques minutes avant le début du cours et il le suit à moitié réveillé, en pyjama, en mangeant son petit déjeuner. C'est loin d'être idéal, il le sait, mais il ne se sent plus de faire autrement. Un autre jeune homme voulait rester sur le campus. Il avoue, il a fait plein de fêtes avec plein de monde, même pendant le confinement, quand c'était interdit. Et puis finalement, eh ben, il est rentré chez lui parce que, dit-il, c'est quand même mieux d'avoir maman qui les fait des bons petits plats plutôt que les colocs qui font juste réchauffer du poulet. Oui. Alors, il faut savoir quand même que chaque université a mis en place un service d'écoute et d'aide aux étudiants. Certains ont même des personnes à disposition sur le campus, mais moi, je n'ai parlé à aucun étudiant qui s'en sert ou qui dit s'en servir, en tout cas, même si tous évoquent la santé mentale, la leur ou bien celle de leurs camarades, comme un grand sujet d'inquiétude en ce moment.
Merci beaucoup Marie Billon d'avoir été en ligne avec nous en direct de Londres pour la situation des étudiants britanniques qui n'est franchement pas facile. Nous sommes maintenant en ligne avec le président de l'université Sorbonne-Paris-Nord, Villetaneuse-Bobigny. Bonjour Christophe Fouqueret.
Bonjour, bonjour.
Vous avez entendu cet état des lieux pas réjouissant au Royaume-Uni et chez vous, dans votre université qui est une université considérée comme pauvre, hein, parce que vous avez un taux très élevé d'étudiants boursiers. Vous êtes dans le nord de la région parisienne. Comment vont vos étudiants ?
Pas très bien, pas très bien. Effectivement, principalement l'université est dans la Seine-Saint-Denis. C'est un des départements les plus pauvres de France. On est sur 3 sites différents, EUT de Saint-Denis, aussi deux gros établissements à Bobigny, et puis un établissement à Villetaneuse. Et la plupart des étudiants ne sont quasiment pas revenus depuis septembre, avec de grosses difficultés parce qu'en fait, ils n'ont pas pu travailler l'été dernier, ils n'ont pas pu faire de petits boulots au cours de cette année. Un certain nombre d'entre eux, du coup, sont rentrés chez eux pour ne pas avoir à payer le logement. Et certains, en fait, se sont endettés, ne pouvant pas payer le logement Crous ou les chambres qu'ils peuvent avoir chez l'habitant. Depuis le début, en fait, on a fait des distributions de colis alimentaires sur tous les sites. Et à chaque fois, il y a à peu près 300-400 étudiants qui viennent récupérer de quoi manger pour la semaine.
Est-ce que vous avez le sentiment, Christophe Fouqueret, que le gouvernement a, pendant pas mal de temps, sous-estimé les problèmes majeurs des étudiants? Je veux parler de problèmes pour étudier, de problèmes pour vivre au quotidien, de problèmes psychologiques.
En fait, non, il y a eu un assez bon suivi, peut-être pas évidemment entre mars et juin, parce que c'était un petit peu compliqué pour tout le monde, et pas que pour les étudiants. Mais finalement, effectivement, la difficulté qu'on a, c'est que les étudiants peuvent difficilement faire du télétravail tout le temps. En tout cas, ils ont des difficultés d'un point de vue informatique, d'un point de vue connexion. Les enseignants ont aussi des difficultés. Maintenant, c'est à peu près réparé. Mais il a fallu quand même pas mal de temps pour que tout s'équipe, pour que tous aient les moyens d'avoir des connexions raisonnables. Et pour les étudiants, en fait, paradoxalement, ça devient très difficile de revenir sur site, alors même que le gouvernement cherche et demande à ce que les étudiants reviennent sur site. Mais revenir sur site, alors que dans le même temps, on dit à l'ensemble des communautés de faire le maximum en télétravail, c'est un peu paradoxal. Ça peut paraître paradoxal, donc c'est compliqué pour tous. Psychologiquement, c'est très compliqué.
Restez en ligne avec nous, Christophe Fouqueret. Sandra Gaviria est enseignante à l'Université Le Havre-Normandie. Vous souhaitez intervenir?
Non, je suis entièrement d'accord. C'est qu'on ressent une certaine lassitude chez les étudiants. Beaucoup ne veulent plus revenir parce qu'ils ont compris que ça ne serait pas la vie étudiante. Donc certains ont envie, ceux qui sont très isolés, mais non pas les autres. Et moi, je pense que le problème, c'est qu'on a parlé de continuité pédagogique. Maintenant, ça y est, on a les connexions. Dans notre université, je pense que là, il y a une deuxième campagne d'ordinateurs. Les étudiants vont avoir tous des ordinateurs, oui. Mais il faut aller au-delà.
Il faut bien préciser pour nos étudiants qui nous écoutent sur le continent africain, il y a des étudiants en France qui font des études qui n'ont pas d'ordinateur, qui font tout avec leur smartphone. Et là, ce n'est pas possible avec le système actuel.
Alors moi, c'est une de mes batailles. Je pense que justement, pour la rentrée prochaine, il faut assurer avec les inscriptions à l'université que tout étudiant puisse avoir un ordinateur ou prêté ou recyclé ou un don et accès à une connexion, parce qu'on ne peut pas parler de continuité pédagogique qu'on n'assure pas ceci. À l'Université du Havre, là, il y a une deuxième campagne, donc je pense que tous les étudiants... Et après, il y a le problème qui a été soulevé à plusieurs reprises par les intervenants, c'est que les étudiants ne font pas le geste des fois d'aller et parce qu'ils ont du mal. Et ça fait partie de ce sentiment de solitude qu'ils ont et d'isolement et de mal-être.
Et alors, comment vous voyez les choses? Vous avez l'impression que parfois, les étudiants ne se donnent pas le mal, ou vous êtes très compréhensible l'un et l'autre, Christophe Fouqueret? Comment vous voyez ça, vous, en tant que président d'université?
C'est très compliqué. Effectivement, d'un point de vue étude, l'année ne sera pas normale. Clairement, ils ne pourront pas étudier comme ils auraient étudié. Et
quand vous dites l'année ne sera pas normale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir quoi sur le papier en termes de réussite aux examens?
Alors, ça, c'est effectivement assez compliqué à dire à l'avance. Ce qui est clair, c'est qu'un étudiant a du mal à suivre, et un enseignant aussi, bien sûr, mais un étudiant a du mal à suivre 6 heures ou 8 heures de visio dans une journée. Nécessairement, au bout de 3 heures, on décroche. On ne peut pas tenir comme ça 6 heures avec simplement un enseignant qui est derrière l'écran et qui va lire son texte, avec lequel on peut difficilement dialoguer, avec lequel on peut difficilement poser des questions et interagir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Énormément d'étudiants ont beaucoup de mal. Ils ont l'impression d'avoir été délaissés, de ne pas être capables de suivre. Et leur angoisse, indépendamment des questions matérielles, hein, que ce soit ordinateur ou de nourriture, leur angoisse, c'est de se dire nos résultats ne seront pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu faire dans une année ordinaire.
Et donc, je vous repose la question, qu'est-ce qui va se passer pour les notes aux examens? Quelle est la nature de vos discussions entre vous, président d'université, et les enseignants?
De faire en sorte qu'il y ait de la bienveillance et donc qu'il y ait un niveau raisonnable qui soit obtenu dans cette année, sachant, et on sait tous très bien, que quand les choses sont redevenues normales, bon, on peut l'espérer en septembre, mais même si ce n'est pas totalement sûr, eh bien qu'il y aura du soutien supplémentaire qui soit fait pour essayer de rattraper ce qui n'aura pas pu être fait cette année.
Paul Maillot, est-ce que vous craignez que le taux d'échec aux examens, qui est déjà très élevé pour la licence en France, ne s'aggrave en tant que président de la FAGE, premier syndicat étudiant?
Effectivement, c'est une crainte qu'on peut avoir. Après, on a vraiment, je pense, les deux versants du discours, parce que effectivement, c'est une année où la continuité pédagogique peut être mise à mal, et c'est notamment vraiment des craintes au niveau du décrochage, mais en termes de contenu pédagogique, en revanche, pour les étudiantes et les étudiants, ces derniers ont redoublé d'efforts sur l'apprentissage des connaissances et sur leur évaluation. Au final, on a quand même pu avoir certaines adaptations qui nous laissent penser que ce sera assez positif.
Ouais, c'est vrai que certains étudiants disent, il faut le reconnaître, que finalement, comme ils n'ont plus rien d'autre à faire que de travailler, qu'il n'y a plus de sociabilité, il n'y a plus de fêtes, etc., finalement, ils travaillent, en tout cas pour ceux qui y parviennent. Restez en ligne avec nous, vous pouvez bien sûr nous appeler, on prend vos appels au 33 7 64 45 51 41. Un étudiant sénégalais qui est à qui est à Pau, dans le sud-ouest de la France, nous appelle. Bonjour, vous êtes pape ?
Bonjour Emmanuel.
Oui, on vous écoute, vous êtes en direct, c'est papa, hein, vous avez 23 ans, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Ok, soyez le bienvenu, on vous écoute papa.
Merci bien. En fait, moi, le problème en fait majeur que j'ai, c'est que moi, je suis venu en retard, parce que je suis venu au fin septembre.
Oui.
Après, j'ai raté à peu près, disons, un mois de cours. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est déjà un problème. Je suis arrivé et bim, il y a le confinement.
Pourquoi
et donc,
parce que vous avez eu des problèmes de visa étudiant, des problèmes habituels des étudiants étrangers.
Effectivement, c'était ça. Mm-hmm. Après, je suis arrivé aussi deux jours, trois jours, il y a le confinement. Et donc, tout a commencé là-bas, voilà. Après, moi aussi, j'ai un autre problème, parce que moi, je pense qu'il y a des matières qu'on ne peut pas faire en distance, à l'image de l'informatique, par exemple.
Mm-hmm. Vous êtes en licence d'informatique ?
Non, je fais éco-gestion.
Éco-gestion, d'accord.
Ouais.
Et du coup, comment vous faites alors ?
Bon, après, j'essaie de suivre le cours, mais voilà, j'ai une mauvaise note en informatique, 5,50, vous imaginez. Mais je pense que c'est pas de ma faute en quelque sorte. Je connais mon niveau, mais après, c'est pas facile de faire un cours où, franchement, ça demande de l'implication, et on le fait derrière la caméra. C'est pas facile.
Derrière la caméra. Vous éteignez votre caméra pendant les cours, vous la laissez allumée ?
Parfois, je l'allume pas.
C'est la question taboue, hein, ça, j'ai l'impression. C'est la question qu'il ne faut plus poser aux étudiants. Non, mais bien sûr, on ne vous en veut pas, hein, papa, on comprend vraiment la situation. Vous vous sentez dans... En fait, vous communiquez avec qui dans la journée ?
Bon, personne, hein, franchement. Moi, je suis seul, hein, toute la journée. Il n'y a que le bruit du frigo que j'entends. Si ce n'est pas ça, c'est personne.
Oui, le bruit du frigo, seul, derrière votre écran. Bravo, en tout cas, bon courage à vous. Surtout, vous ne décrochez pas, vous restez bien, vous vous accrochez, hein, papa.
D'accord, bah merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir téléphoné. Paul Maillot, à l'heure actuelle, vous, en tant que syndicat étudiant, quelles sont les urgences que vous demandez au gouvernement ?
Alors, effectivement, c'est de pouvoir s'atteler à une réouverture qui soit effective dans les établissements de l'enseignement supérieur et laisser la possibilité toujours d'avoir cette ambivalence entre les personnes qui ont été forcées de rester chez elles, effectivement, parce que foyer familial plus sain, et les personnes qui souhaitent revenir en cours. Parce que, comme ça a été dit, effectivement, les jeunes peuvent avoir du mal à revenir en cours, mais en tout cas, qu'on leur laisse la possibilité et qu'on travaille également à l'ouverture de tiers-lieux. Je prends l'exemple de Vienne en Autriche. Il y a énormément de restaurateurs, de commerçants qui ont décidé d'ouvrir leurs lieux pour que des jeunes puissent venir ensemble travailler, se voir, recréer un petit peu de lien social, ne serait-ce que ça. Donc effectivement, d'avoir la possibilité pour les jeunes de se retrouver et également d'avoir un réel accompagnement qui soit financier social dans l'accompagnement, au niveau de l'accompagnement psychologique et également de l'accompagnement financier qui doit être vraiment renforcé aujourd'hui.
Sandra Gaviria, sur les tiers-lieux, là, je vous voyais
Je suis entièrement d'accord, parce que d'ailleurs, les étudiants, ils demandent, quand ils doivent travailler en groupe, au moins pouvoir aller à l'université. Et ça, c'est possible, par petits groupes, au moins se réunir. Ils ont besoin de liens, ils ont besoin de se voir. Et moi, je pense qu'à un moment, il faut penser au-delà de la continuité pédagogique. Apprendre, ce n'est pas juste avoir des cours par Zoom. Donc maintenant, il faut aller au-delà dans la réflexion et innover ou penser à des nouvelles formules.
Christophe Fouqueret, vous avez une visibilité, vous avez un agenda là, pour votre université, Paris-Nord, Villetaneuse-Bobigny ?
Alors, assez difficilement. C'est extrêmement difficile de modifier les emplois du temps en direct, d'autant plus que les informations qui viennent du gouvernement changent à peu près toutes les semaines. Par contre, il y a une bonne nouvelle la semaine dernière, donc je voudrais juste le mentionner, le fait que les Crous, maintenant en France, ont le droit effectivement d'ouvrir leur salle de restauration pour que les étudiants puissent manger sur place, froid certes, mais au moins manger sur place, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc ça rendrait les choses encore beaucoup plus difficiles pour les étudiants qui peuvent venir peut-être faire un TP, faire un TD, je pensais au TP d'informatique par exemple, ou au TP de physique, mais qui ne pouvaient pas manger sur place. Donc du coup, ça n'incite pas à venir à l'université.
Avec le repas à 1 euro, oui.
Exactement. Donc ça, c'est deux opérations qui sont vraiment très intéressantes, et j'espère en tout cas qu'à partir de mi-février, il y ait beaucoup plus d'étudiants sur place.
Merci à vous. Je voudrais qu'on donne la parole à une étudiante qui nous a posté ce message WhatsApp sur le 33 7 64 45 51 41. C'est une étudiante mauritanienne à l'Université de Lille.
Bonjour, moi c'est Bachille Houley, étudiante en ingénierie de la chaîne logistique. Je réside dans une résidence universitaire toute seule et ça a toujours été difficile pour moi de m'adapter parce que je suis habituée à être en famille. Mais on essaie de s'adapter comme on peut. par rapport aux cours en ligne, il faut beaucoup de bonne volonté, beaucoup de motivation, parce que ce n'est pas du tout évident en cette période de se réveiller le matin de bonne heure, se mettre devant un ordinateur avec cette période de fraîcheur. Ce n'est pas du tout évident. Il faut vraiment avoir beaucoup de motivation. Et par rapport aux difficultés, je dirais que tout le monde en rencontre, surtout nous, les étudiants en dernière année, que ce soit en dernière année de master ou en dernière année de licence, c'est vraiment pesant pour nous par rapport à nos recherches de stage. Avec toutes ces mesures, on se demande est-ce que les entreprises vont recruter ou pas. Donc, c'est un stress supplémentaire pour nous.
Sur la question des stages, Paul Maillot, c'est quand même une vraie inquiétude, notamment pour les jeunes qui se sont diplômés l'été dernier, qui n'ont plus les conventions de stage qui se sont arrêtées à la fin de l'année civile en décembre dernier, et qui n'ont plus de conventions de stage concrètement.
Oui, tout à fait. C'est une vraie question. Les stages et qui conditionnent aussi souvent l'obtention du diplôme, donc qui recule le fait de pouvoir s'insérer professionnellement. Donc, on a suggéré de voir certains dispositifs être mis en place, donc soit des modules de recherche ou des mises en situation professionnelle, mais des pistes sont encore à l'étude pour voir comment est-ce que ce sera possible d'adapter, parce que effectivement, si on se dit encore une fois, on reporte les stages et comme ce qui s'est passé l'année dernière, on reporte sur une période où on a un nouveau confinement, ben au final, rien n'est mis en place pour ces jeunes-là.
Alors, il y a quand même une proportion extrêmement importante d'écoles et d'universités qui ont accepté, non pas de brader le diplôme, mais en tout cas d'évaluer les étudiants autrement qu'avec un rapport de stage pour qu'ils se diplôment sans avoir fait de stage. Néanmoins, la question se repose ensuite pour l'insertion professionnelle. Si vous n'avez pas fait de stage, comment vous trouvez un boulot très concrètement ?
Effectivement, et c'est pour ça qu'on insiste autant sur, pas en réalité l'évaluation par un rapport de stage, mais sur encore une fois, des mises en situation professionnelle qui permettent de compenser l'absence de stage.
Il va falloir faire preuve dans les mois à venir encore probablement de beaucoup d'inventivité du côté des enseignants, des universités. Vous-même, Sandra Gaviria, vous n'étiez pas préparée à enseigner derrière un écran?
Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais on n'a pas eu de formation, nous, pour tout ça non plus. On a improvisé, on cède les uns aux autres.
Oui, c'est le règne de la débrouille. On va laisser le mot de la fin à un étudiant qui est à l'université Charanta Diop en licence 2 de philo. Bonjour Yaya, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup. Bonjour, c'est Yaya Baldé, étudiant à l'université Charanta Diop de Dakar, au département de philosophie. Je veux vous dire que chez nous, il y a eu un problème de connexion depuis l'avènement de la pandémie. De nombreux de mes camarades étudiants ne sont pas parvenus à lire leurs cours parce que y avait eu un problème de connexion et certains n'avaient pas de bons cellulaires, de bons smartphones. Et à cause de ça, aujourd'hui, ils sont dans le doute s'ils pourront réussir leur examen parce que les épreuves n'ont pas été du tout à leur portée. Et c'est ça.
Vous-même, vous êtes inquiet pour votre réussite aux examens, Yaya, c'est votre cas ?
Bon, ça n'a pas été mon cas parce que moi, je parvenais quand même à me connecter, mais je suis dans la catégorie de ces gens-là. Je doute toujours.
Vous doutez toujours. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Merci à vous tous. Vous avez été très nombreux à nous contacter, à nous envoyer des messages pour nous parler, pour nous faire partager votre détresse et on la comprend aisément. Merci à tous nos invités. Sandra Gaviria, professeure à l'Université Le Havre-Normandie. Vous enseignez la sociologie. Bravo aussi à vous en tant qu'enseignante pour votre implication auprès des étudiants. Paul Maillot, président de la FAGE, le premier syndicat étudiant en France. Et puis Christophe Fouqueret, merci à vous d'avoir été en ligne avec nous, président de l'université Sorbonne Paris Nord, ville tanneuse Bobigny. Et quant à vous, les voisins, les voisines, merci d'être avec nous chaque jour en direct, de communiquer, de nous parler de votre vie quotidienne. On se retrouve demain sur RFI, bien sûr en direct, chez 7 milliards de voisins. À demain.
7 milliards de voisins, c'est fini.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles.